Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Nous sommes en train d'aborder la réalité du toucher dans cette catéchèse d'hier et d'aujourd'hui. Alors confions la catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons commencé à voir dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, mais surtout l'Évangile, Jésus qui touche. Nous avions vu explorer un petit peu les regards, le regard de Jésus. Et là, nous sommes en train de voir que Jésus touche et opère des guérisons par le toucher. Les yeux des deux aveugles de Jéricho, un aveugle à Bethsaïde, l'aveugle né de Jérusalem. Mais il y a d'autres passages que nous allons voir aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus va guérir quelqu'un qui est sourd bègue. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, par exemple, « S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le lien de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne, mais plus il leur recommandait, plus et de plus belle il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disaient « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Geste étonnant de Jésus qui met ses doigts dans les oreilles et avec sa salive touche la langue. Bien sûr, c'est une guérison physique. Et le Seigneur, à travers cette guérison physique, vient signifier que le cœur de l'homme, qui est une oreille, écoute Israël, Shema Israël, écoute, le Seigneur notre Dieu est un. Il faut que tu écoutes, écouter, obéir. En hébreu, c'est la même racine. Et voilà le drame de l'être humain qui a désobéi, qui n'écoute plus Dieu, il n'écoute que sa volonté propre, l'homme. Il n'écoute que ses idées. Mais il n'écoute plus Dieu. Alors il faut que le Seigneur vienne comme rédempteur toucher l'oreille et mettre la salive, sa salive, sur la langue. Pour que ce qui est débouché au niveau de l'oreille sorte correctement au niveau de la langue et du parler. Nous avons vu hier l'aveugle de Bethsaïde qui se met à voir correctement d'une manière progressive. Le bègue, il parle avec difficulté jusqu'à ce moment où il parle correctement. Il faut qu'il y ait quelque chose de très clair, de très net entre ce que notre cœur croit et ce que nos paroles proclament. Ça s'appelle l'inverse de l'hypocrisie. C'est-à-dire cette distance et même cette dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on croit. Par exemple, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois que je suis le Fils bien-aimé du Père et quand je rencontre mes frères, je dis que je suis nul, que je suis vraiment Je suis pas sûr d'être sauvé, je suis pas sûr d'être bien aimé, je suis pas sûr d'être aimé. Vous voyez, cette espèce de mélange. Et puis, d'hypocrisie, c'est-à-dire que je suis dans la vérité quelque part et dans le mensonge d'autre part. Alors il faut rompre avec l'hypocrisie. Désormais, dit saint Paul, entre vous, plus de mensonges. Le parler vrai, eh bien, il faut que ça corresponde à ce que je vis dans la foi. Si je crois que tous mes péchés passés ont été remis à la miséricorde et que je crois en la miséricorde de Dieu, si je crois à la puissance du sang du Christ dans ma vie, à chaque souvenir que j'ai de mon passé, de mes péchés passés, je glorifie le Seigneur pour sa miséricorde et je ne retombe pas dans une espèce de « Oh là là, oh là là ». Vous voyez? Il y a donc une grande guérison à avoir de la part du Seigneur Jésus qui vient nous toucher dans l'oreille. Est-ce que tu entends quand je te dis que tu es mon fils bien-aimé? Oui, mais. Ah, ce oui, mais, c'est quelque chose de terrible. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle ne pas vivre en vérité. C'est-à-dire avoir une double vie. J'ai une vie avec le Seigneur où je crois avec lui. Merci Seigneur, tu es formidable. Et après, je vis comme un païen. Mais je crois, hein, attention, hein, non, oui, sauf que je vis comme un païen. Mais il y a un petit problème, oui, c'est que c'est pas vrai. La vérité, comme diraient quelques philosophes et saint Thomas, c'est l'adéquation à la réalité, à ce qui est. Donc, si je suis devenu en Jésus le fils bien-aimé du Père, la fille bien-aimée du Père, normalement je dois vivre en tant que tel, selon ce que je suis. C'est ça un vivant. Un vivant, il vit sa vie de selon ce qu'il est. Alors, il y a le pingouin qui va vivre comme un pingouin, c'est normal, il est pingouin. Il y a l'oiseau qui va vivre comme un oiseau, c'est normal, sa vie d'oiseau est. Segundum, je ne sais plus comment on dit en latin, mais en tout cas, selon son être. On ne va pas demander à un oiseau d'avoir une vie d'hippopotame, non. Non. Alors nous, êtres humains, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qui es-tu? D'où viens-tu? Rappelez-vous la question qu'on se posait. Maintenant, on a la réponse. Qui es-tu? Je suis le fils bien-aimé du Père. D'où viens-tu? Ben, je viens de mon Père. Alors, vis selon ce que tu es. Et non pas selon ce que les gens disent de toi, ce que tu penses être et ce que le démon dit de toi. Parce que le fait de désobéir à la parole de Dieu, à sa volonté, ça nous a mis vraiment, on bégaye tous, si vous voulez. Le pécheur, il bégaye parce que ça circule pas bien. Il aimerait bien être bien aimé, mais il n'est pas sûr, oui. C'est ça. Au niveau spirituel, c'est ça. Alors, on bégaye. Alors, aujourd'hui, c'est la fin du bégaiement spirituel, vous voyez. Et puis, si le Seigneur veut opérer quelques guérisons physiques aussi, on est d'accord. On lui donne carte blanche. Mais c'est magnifique de faire ce lien, Jésus fait ce lien entre l'oreille et la langue. Et encore une fois, il y a cette salive, il y a ce toucher, il y a ces. Hein, certains trouveront ça bizarre, mais en tout cas, il y a comme ce refaçonnage, ce remodelage. Il faut que tu vives selon non pas le vieil homme, mais il faut que tu vives selon l'homme restauré, sauvé en Jésus, l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas l'homme idéalisé par les idéologies, hein. C'est pas le transhumanisme, l'humanité 2.0, non, 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 non. C'est l'homme nouveau en Jésus-Christ, voilà, c'est tout. C'est magnifique, frères et sœurs. Merci Jésus, aujourd'hui, de nous toucher, de nous toucher l'oreille, pour que nos oreilles, parce que qu'est-ce qu'on vit à travers nos oreilles, frères et sœurs? Ah, on entend beaucoup de choses. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on entend? Faites attention à la manière dont vous entendez, dit Jésus dans l'Évangile. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup de choses. Ça part beaucoup de médias différents, c'est-à-dire par différents vecteurs. qu'ils soient radiophoniques, télévisuels ou des personnes qui vous parlent, beaucoup de choses arrivent à nos oreilles. La question est, est-ce que la parole de Dieu arrive à nos oreilles? Ah! Et est-ce que lorsque cette parole de Dieu qui n'est que bénédiction arrive à nos oreilles, est-ce que nous laissons entrer cette parole de Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes une oreille, j'allais dire, distraite? Parce qu'il y a déjà tellement d'infos, si vous voulez, à gérer, hein? Tellement de sites à regarder, on est inscrit sur tous les sites, tous les groupes, tous les trucs, tout ce qui se passe, il faut qu'on soit au courant de tout. Est-ce que la parole de Dieu, quand Dieu te parle, est-ce que tu laisses Dieu se frayer un chemin jusqu'à l'oreille de ton cœur? Parce que Dieu parle, de fait. Mais le semeur est semé, est sorti pour semer, mais est-ce qu'il trouve en toi cette bonne terre? Oui, je sais bien que tu parles, Seigneur, mais moi j'ai des soucis. Voilà, j'ai des soucis, donc je n'arrive pas à faire porter toute la fécondité de ta parole en moi. Quand tu me dis que je suis ta bien-aimée, ton bien-aimé, que je suis restauré en Jésus, que je suis désormais, ça y est, j'ai été transféré des ténèbres à ton admirable lumière, ça me paraît un peu film Disney, quoi. Hein? Un film fantastique, j'aimerais bien. Ce serait chouette si c'était vrai. Parce que, Seigneur, je ne sais pas si tu es au courant, mais la vie est compliquée. Oh là là, frères et sœurs, vraiment que Jésus nous touche l'oreille aujourd'hui. C'est capital, capital, capital. Et puis éteignons tous les médias, tous ces vecteurs de paroles mensongères, de propagande, des paroles qui nous mettent dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans le repli sur nous-mêmes, dans tout ce qui ne nous fait pas vivre dans le bon air du Saint-Esprit. Ah, parce que le Saint-Esprit, c'est un souffle. On respire bien, voyez. Ah oui, mais c'est possible, mais bien sûr que c'est possible. Je peux, j'ai le droit, ben oui. Frères et sœurs, ne nous laissons pas polluer. Alors, ce qui sortira de la langue, ce sera en fonction de ce que nous vivons dans notre cœur. Voilà. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur par l'oreille? Jésus vient vraiment nous toucher l'oreille. Mets tes doigts dans nos oreilles. Et avec ta salive, touche-nous la langue. C'est la nouvelle manière, rappelez-vous, Isaïe, Jérémie, leurs lèvres ont été touchées par charbon brûlant. Pour que de nos lèvres, frères et sœurs, sorte l'action de grâce, la bénédiction, la louange, la confiance, la proclamation de ce que notre cœur croit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai pas cru, c'est pourquoi je me suis tué. Et le démon veut nous maintenir ou nous mettre dans le mutisme. Ce qui est différent du silence. Le mutisme, c'est « je ne crois pas ». Voilà, donc je me ferme, je deviens comme une huître. Et je ne bouge pas déjà, et je ne parle plus. Il y a des démons muets dans l'évangile. C'est quoi un démon muet? C'est un démon orgueilleux, bien sûr, qui refuse de s'ouvrir à la lumière. Alors, il se ferme et il se tait. Il y a des gens qui se taisent parce qu'ils sont sous l'emprise d'un démon muet. Comment ça se fait? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors, ils sont enfermés dans les ténèbres et ils se taisent. C'est-à-dire que dès qu'on leur parle de Jésus, du Seigneur, fermeture, mutisme. Étonnant. Alors Jésus vient vraiment mettre ta salive dans nos langues. Ah oui, oui. Ephata. Jésus lève les yeux au ciel, il pousse un gémissement. Gémissement. Ben oui, parce qu'on n'était pas fait pour être sourd-bègue, si vous voulez. Non, on est fait pour être l'auditeur de Dieu qui parle. Et si Dieu est parole, le Verbe se fait chair pour que de nos paroles, nous soyons des prophètes, tout simplement. Comme Adam, qui nomme toutes choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous sommes faits pour que, ici-bas, sur cette terre, ce que nous disions de nos lèvres corresponde à la parole de Dieu, soit en contact avec la parole de Dieu. Oui, ça fait un immense tri qu'on fait Saint Jacques, le péché par la langue, etc., qu'on fait ces belles émissions du père Dollier sur la lettre de Saint Jacques, sur Radio Maria. Alors Seigneur, merci pour ces guérisons que tu veux opérer aujourd'hui dans nos vies. Sors-nous de l'hypocrisie, vraiment. Établis-nous dans la vérité. Nous voulons vivre dans ta vérité aujourd'hui, Seigneur. Et du coup, vivre dans la lumière, le reste. Non. Alors, nous continuons un petit peu dans l'évangile. Et nous voyons Jésus qui va imposer les mains à la belle-mère de Simon. Guérison là aussi, elle est malade. La fièvre. Imposition des mains. Il vient la visiter, lui parler certainement. Il la touche. Et voilà que la fièvre la quitte et qu'elle se met au service. Parce que sans doute il y avait plus que la simple maladie d'un moment. Il y avait une maladie peut-être un peu plus profonde. Une non-acceptation peut-être que son gendre se mette à quitter ses poissons pour filer vers quelqu'un de bizarre qu'on appelle Jésus. Bon. Peut-être des petits soucis. Il y avait peut-être de la résistance en elle, cette brave belle-mère. Voilà que Jésus vient la visiter. Devant sa présence réelle, devant son regard et devant son toucher, elle craque, elle rend les armes. Voilà. Jésus va guérir aussi un lépreux. On le voit dans les trois évangiles synoptiques. Un lépreux vint à lui, le supplie et s'agenouillant, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ému aux entrailles, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus, il est lépreux, tu vas pas toucher un lépreux quand même. Impur, impur, il devait se tenir à distance, en mitouflé sous toutes sortes de vêtements, contagieux. Jésus vient à lui, un lépreux vient à Jésus, pardon, le supplie, il s'agenouille, il brave les gestes barrières, on dirait comme ça aujourd'hui, vous voyez. Il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Ému aux entrailles, cette belle expression qui revient souvent en Jésus, il est ému aux entrailles, saisi de compassion, d'une compassion qui vient du ciel, qui est beaucoup plus profonde que nos compassions simplement humaines. Jésus vit dans son âme humaine une compassion divine. Il voit l'étendue, la gravité. Il voit à quel point on a été déformé. On a été déchiqueté par le péché. Le problème pour nous, c'est qu'on ne voit pas. On ne voit pas bien. Alors, on survit et on dit, c'est la vie. Non. Jésus vit dans son âme ce décalage entre le dessein de Dieu sur nous, le dessein du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur chacun de nous, et l'être misérable que nous sommes devenus par le péché, par la contagion du péché. Alors il nous voit nous dépatouiller. Il nous voit nous dépatouiller et il est ému aux entrailles. Il est retourner dans ses entrailles de miséricorde et de compassion. Jésus n'est pas du tout indifférent à notre misère. Il n'est pas du tout indifférent à nos galères. Non, il est plein de compassion. Et cette distance entre le dessein de Dieu et là où nous sommes tombés, si bas, si abîmés, eh bien, il vient prendre en lui cette distance. Il vient assumer notre nature humaine blessée, en toute chose accepter le péché, et il vient nous dire, viens, je te ramène à la maison. Je viens te sauver. Je veux que tu sois purifié. C'est beau, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus détecte dans le cœur de ce lépreux, qui est beaucoup plus qu'un lépreux, vous comprenez, nous ne sommes pas ramassés dans notre maladie. On n'est pas vacciné, non vacciné, ça veut rien dire. C'est quoi ces catégories, là? Non, mais franchement, c'est d'une idiotie. Nous sommes des êtres aimés de Dieu. Ton identité profonde, c'est d'être un bien-aimé de Dieu avec telle ou telle maladie. Ok. Mais nous ne sommes pas ramassés à nos maladies. Alors, si tu le veux, tu peux me purifier. Le lépreux s'en remet à la volonté de Dieu. Et ça, c'est très, très bien. C'est ce qui déclenche. Oh Jésus, mais ça, c'est formidable, tu sais. Je suis ému aux entrailles parce que non seulement j'ai compassion pour ta mise, pour toi, pour ta misère, pour ta maladie, pour l'état dans lequel tu es, parce que je vois la merveille que tu es. Et je vois à quel point tu es abîmé, mais je vois qu'au cœur même de ton abîme, il y a dans ton cœur cette remise dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est très très bien. Alors si tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, pour manifester que c'est ça, alors je le veux, sois purifié. Parce que la plus grande maladie, ce n'est pas d'être lépreux ou d'avoir... je ne sais pas trop quoi, c'est d'avoir une volonté humaine en distance par rapport à la volonté de Dieu. Une volonté humaine rebelle à la volonté de Dieu. Alors on comprend que, quelle que soit la maladie humaine, psychique, si le cœur profond dit « si tu le veux, je m'abandonne à ta volonté », le Seigneur ne peut que combler le cœur de ceux et celles qui sont d'accord avec sa volonté. Parce que là, il trouve la guérison profonde. La guérison profonde, elle est sur notre volonté humaine rebelle. Alors, la guérison de sa lèpre est un signe merveilleux. Encore une fois, vous le savez maintenant que, bien sûr, Jésus est le Messie. Nous sommes dans les temps messianiques. Mais signifie d'une manière merveilleuse dans le corps, que la volonté humaine est restaurée. Et d'ailleurs, si on continue dans cet évangile, c'est justement le problème, c'est qu'il va désobéir. Donc, c'est ça, le nœud du problème, c'est pas la lèpre, hein. C'est la volonté humaine. Que Jésus vient, enfin toute notre personne, mais notre volonté humaine est le lieu par excellence qui doit être réintégré dans la volonté de Dieu. C'est toute l'agonie de Jésus, à Gethsémani, entre autres. Jésus aussi va toucher les disciples à la transfiguration, rappelez-vous. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont sur la montagne avec Jésus transfiguré, il y a Moïse et Élie, et puis ils entendent la voix du Père, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », et puis les disciples... À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, tout effrayés. Ils paniquent hein, beaucoup, hein, les disciples, souvent. Ce sont des gens assez apeurés, hein, c'est plutôt rassurant, hein, n'est-ce pas? Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. On est dans Saint Matthieu 17, chapitre 17. Ils sont effrayés par terre. Ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement laminés. Alors que c'est magnifique, la transfiguration. Sauf qu'ils ont une peur bleue. À la voix du Père, ils tremblent. Ils sont effrayés. Alors Jésus s'approche, les touche et leur dit. C'est magnifique. Je prenais l'exemple hier à la fin de la catéchèse de ce papa, de cette maman qui, devant un enfant qui fait des cauchemars, eh bien, il vient dans la chambre du petit et il le touche et lui dit « Ne t'inquiète pas, mon petit, t'as fait un cauchemar. Papa est là, maman est là. » Toucher et dire. Voilà, magnifique. Relevez-vous et n'ayez pas peur, vous voyez. Le lien entre le toucher et la fin de la peur. Il faut beaucoup méditer là-dessus pour nos vies personnelles, frères et sœurs. Parce qu'encore une fois, la peur est très liée à l'imaginaire. Le toucher, c'est le sens le plus réaliste. Nous touchons, quand Jésus nous touche, il nous met immédiatement à son contact. Et la peur fond. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Jésus touche donc les disciples, les petits-enfants aussi, vous savez qu'on amène les petits-enfants. On le présente pour qu'il leur imposa les mains en priant, mais les disciples les rabrouèrent. Ah, magnifique. Jésus dit alors, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Un très beau passage aussi dans les évangiles, nous sommes en Luc 7, c'est une particularité, je crois que ce n'est que Saint Luc qui raconte ce passage. C'est dans une ville appelée Naïn, il y a une veuve et qui a perdu son fils. Jésus s'y rend avec ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Donc cette femme a perdu son mari et son fils unique est mort. Voilà. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, Jésus eut pitié d'elle et lui dit. Bien sûr, quand Jésus a pitié, ce n'est pas une pitié comme ça, vous savez, un bon marché. Non, non, non. La pitié de Jésus, c'est, encore une fois, c'est quand c'est le, il est retourné dans ses entrailles. Voilà. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. Magnifique passage où le geste de Jésus et sa parole sont précédés par sa compassion, encore une fois. Jésus avait compassion de cette foule qui était des brebis sans berger. Jésus avait compassion de ce lépreux. Jésus a compassion de cette veuve qui a perdu son fils unique, ne pleure pas. Jésus voit cette femme, il voit sa détresse. Il lui dit, ne pleure pas. Il y a un parallèle, bien sûr, qu'on peut faire avec Marie. Après la mort de Jésus, pour le samedi saint, ne pleure pas, ô mère. Il touche le cercueil. Il aurait pu ne pas le faire, mais il choisit de toucher le cercueil. Bien sûr, vous le savez, vous avez compris que Jésus n'est pas un magicien, on n'est pas dans l'ordre de la magie, on est l'ordre de la puissance de Dieu qui se manifeste et qui se révèle, la bonté de Dieu, qui n'a pas fait l'homme pour la mort, mais pour la vie. Jésus manifeste qu'il est victorieux de la mort, il est la résurrection. Marthe, Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, mais mon frère, ça fait 4 jours, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que ton frère ressuscitera? Je sais qu'il ressuscitera. Non, je ne te demande pas si tu sais, si tu connais ton catéchisme. Je te demande, est-ce que tu crois? Je suis la résurrection. Jésus manifeste qu'il est vainqueur de la mort. Et que la mort, qui est une conséquence du péché, qui est venue par le diable, et nos premiers parents se sont fait avoir, Jésus est vainqueur de la mort. De la mort physique, il va manifester clairement la victoire sur la mort physique le jour de la résurrection, mais plus profondément la mort spirituelle, c'est-à-dire le drame de l'homme, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la mort éternelle. C'est de cette mort-là que Jésus est venu nous sauver d'abord. Il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie par la foi. Alors, voir quelqu'un dans un cercueil qui se lève et qui est rendu à sa mère, c'est sûr, on comprend qu'ils furent tous saisis de crainte et qu'ils glorifiaient Dieu. Mais c'est un signe aussi que déjà, en nous attachant à Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est la vie, il est la résurrection. Et tout homme qui croit en lui ne meurt pas, mais a la vie éternelle. Alors ne pleure pas, femme, ne pleure pas, ô mère, parce que par la foi en Jésus ressuscité, tu es déjà passé sur l'autre rive. Tu as déjà la paix. Au cœur même de tes souffrances, tu peux déjà avoir accès à la paix. La paix soit avec vous. Première parole de Jésus ressuscité quand même. Alors là aussi, ça s'est fait par ce geste. Jésus touche le cercueil. Vous saurez que je suis le Seigneur quand vous verrez des tombeaux sortir, s'ouvrir. J'ouvrirai vos tombeaux. Ce jour-là, vous saurez que je suis le Seigneur. Promesse faite par le Seigneur dans Ézéchiel 36, je le cite de mémoire. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Le Seigneur ouvre, il touche le cercueil, il touche nos cercueils. Tout ce qui en nous est encore de l'ordre de la mort, vous voyez, mortifère, et de l'ordre du sépulcre. Tout ce qui est encore n'est pas la basilique de la résurrection. Voilà. C'est encore le tombeau. Et en plus, on pleure parce qu'il est vide, mais on ne sait pas où on l'a mis. C'est pas encore la basilique de la résurrection. Jésus vient toucher nos cercueils aujourd'hui, je t'en supplie. Tout ce qu'on traîne de l'ordre de la mort, des ténèbres, viens toucher nos cercueils. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs qui sont en état de cercueil. Allongé dans un cercueil. Oui, beaucoup. Et puis on se dit, c'est la vie. Non, encore une fois, Dieu ne nous a pas fait pour la mort. Il faut bien regarder ça en face, frères et sœurs. On s'est habitué aux funérailles comme quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Pas normal. C'est complètement assumé, visité par le Seigneur. Mais n'oublions pas que nous sommes faits pour la vie éternelle. Ne pleurons pas sur la mort. Ne pleurons pas sur la mort, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que la mort est vaincue. Nous pouvons pleurer, bien sûr, parce que nous aimons des personnes avec qui nous n'allons plus, que nous n'allons plus côtoyer comme avant. On passe à une étape, une modalité tout autre. Et bien sûr, je comprends tout à fait qu'on pleure, bien sûr, bien sûr. Mais ne pleurons pas sur la mort. Parce que Jésus est vainqueur de la mort. Ne pleure pas, dit Jésus. Il dit ça à une femme qui est déjà veuve et qui a un fils unique qui est mort. Comment, Jésus, tu peux dire ne pleure pas? Ah, je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est vainqueur de la mort. Il n'y a que Jésus qui soit la résurrection. Ne pleure pas. Ô mère, ô femme, ne pleure plus. Et derrière cette femme individuelle, il y a bien sûr toute l'humanité. En passant par l'Église, cette réalité féminine qui ne doit plus se lamenter, mais qui doit exulter de joie dans la lumière de la résurrection. Nous devrions être des témoins de la résurrection, nous, chrétiens. Et il faut bien avouer que parfois, malheureusement, nous sommes les témoins d'une pseudo-victoire du démon et que nous pleurons sur la mort. Nous pleurons comme si Jésus n'était pas ressuscité. C'est ça que je veux dire. Nous pleurons comme si Jésus n'était pas victorieux. Nous pleurons comme si Dieu n'existait pas. Nous, chrétiens, non, c'est pas possible. Ben si, ça nous arrive. Jésus vient toucher nos cercueils, vraiment. Viens nous visiter dans notre rapport à la mort, pour que nous soyons vivifiés du dedans par ton geste, par ce geste que tu as posé concrètement dans cette ville de Naïm, aux portes de la ville. Et comme nous savons, Jésus, que tout ce que tu fais comme geste rejoint toute l'humanité, passée, présente et future. Alors nous qui sommes là aujourd'hui par ce geste, par toute la fécondité et la portée de ce geste, eh bien que ce geste que tu as posé vienne nous rejoindre aujourd'hui. Dans toute sa portée salvifique et dans toute la puissance de sa résurrection, de restauration. Vraiment, Jésus, merci de toucher un grand nombre par ce geste. Et je prends ce geste aujourd'hui et dans la divine volonté, je le répands sur toutes les âmes pour que beaucoup trouvent la vie, pour que beaucoup sortent des pleurs, sortent de la détresse, sortent de la tristesse et que beaucoup se ressaisissent, mais par ta puissance, et disent mais merci Jésus d'être vainqueur de la mort. Désormais, je ne peux plus désespérer parce que tu es le victorieux. Certes, il y a un temps comme ça un peu particulier, avant les retrouvailles, mais c'est le temps de la foi et c'est le temps de l'espérance. C'est un temps de croissance dans la charité, en vue du ciel. Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, Thomas, mais croyant. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Merci pour tout et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.